Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Michel Leduc, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'antenne de l'Union rationaliste, dont la présidente est Hélène Langevin, physicienne. Tant il est vrai que le dialogue du rationalisme et de la physique a toujours été décisif pour mieux comprendre le monde qui nous entoure et pour mieux éclairer les rapports de la science à la société. Vous êtes donc physicienne, directrice de recherche au CNRS, directrice du réseau IFRAF, Institut francilien de recherche sur les atomes froids à l'École normale supérieure, présidente de la Fédération française des sociétés scientifiques. Si je vous ai invité aujourd'hui à l'antenne de l'Union rationaliste, c'est pour que nous évoquions ensemble un sujet qui nous tient à cœur, le Palais de la Découverte et son avenir. Palais de la Découverte auquel la Société française de physique, que vous avez dirigée et dont vous êtes aujourd'hui vice-présidente, a attribué très récemment, le 29 janvier 2010, le prix spécial Jean Perrin, un prix soulignant la nécessité d'assurer la diffusion de la culture scientifique. Alors, première question, pouvez-vous nous parler de ce prix Jean Perrin qui, je crois, date de 1972 ?
Écoutez, merci d'abord de m'avoir invitée et je suis très contente d'avoir une occasion de parler du Palais de la Découverte qui me tient très à cœur. Je voudrais vous dire que les sociétés scientifiques comme la Société française de physique ont comme vocation de soutenir bien sûr l'excellence en sciences, mais elles se préoccupent aussi beaucoup de la diffusion de la culture scientifique. Et c'est ainsi qu'en 1972, comme vous l'avez rappelé, la Société française de physique a créé un grand prix qui s'appelle le prix Jean Perrin pour honorer la mémoire de Jean Perrin. C'est un prix qui couronne un effort particulièrement réussi de popularisation de la science. Et alors, il peut couronner tous les moyens d'expression, écrit ou audiovisuel. Il y a un jury composé de 9 personnalités, mais 4 ne sont pas physiciens d'ailleurs. Et il a récompensé, par exemple, des physiciens qui sont des grands vulgarisateurs, comme André Braik, que tout le monde connaît, et Roland Lehoucq, le président du comité, mais aussi des physiciens qui réfléchissent à l'impact de la science, comme Étienne Klein, ou alors des journalistes de la radio, comme Marie-Odile Monchicourt, ou des journalistes de la presse scientifique, comme Philippe Boulanger. Alors, vous allez me dire, pourquoi avons-nous eu l'idée de donner un prix à un établissement?
Absolument.
C'est la première fois que nous faisons ça au Palais de la Découverte, donc en 2009. Eh bien, c'est tout à fait d'actualité parce que, comme nous le verrons tout à l'heure, il y a tout de même des inquiétudes assez sérieuses qui planent sur l'avenir du Palais. Et bien sûr, ces conséquences de la création de l'établissement public Universcience, ce qui relie maintenant, qui consacre en quelque sorte la fusion de la Cité des sciences et de l'industrie et du Palais de la Découverte. Donc, à cause de ces inquiétudes, nous avons pensé que c'était une très bonne occasion de manifester l'attachement des physiciens, et pas seulement des physiciens, disons tous les membres chercheurs du milieu universitaire pour le Palais de la Découverte.
Alors, justement, deux mots sur ce Palais de la Découverte. La spécificité de cet endroit, c'était précisément, me semble-t-il, d'être installé au cœur de Paris, côte à côte avec les plus grands musées, montrant ainsi que la diffusion de l'art et de la science pouvait et devait aller de pair, ce qui, je crois, était la grande idée de Jean Perrin. Activité aussi noble que désintéressée et puis susciter des vocations auprès des jeunes gens et des jeunes filles qui fréquentaient ces lieux. Alors, je voudrais que vous nous disiez, vous Michel Leduc, votre attachement et les raisons de cet attachement au Palais de la Découverte qui est un établissement créé par Jean Perrin.
Oui, c'est Jean Perrin qui l'a créé et c'est pour cela que donner le prix Jean Perrin à cet établissement nous a paru particulièrement adéquat, d'autant que je voudrais rappeler comment Jean Perrin définissait le musée. Ce musée, il disait qu'il était destiné à familiariser les visiteurs avec les recherches fondamentales en répétant les grandes expériences auxquelles ont abouti ces recherches recherche sans en abaisser le niveau et de façon accessible à un très grand nombre d'esprits. Il disait aussi qu'il devait servir à répandre le goût de la culture scientifique et qu'on devait concevoir cet enseignement par expérience plus que par conférence. Donc, je crois que depuis des décennies, le Palais de la Découverte a gardé un peu cette tradition, ces missions qui lui avaient été assignées par Jean Perrin dans les années 30.
Voilà, ouais. Alors le palais date de 1937
37, c'est ça, au d'accord. moment de l'exposition universelle.
Et alors, il a pour fonction de médiatiser la science.
Voilà, alors il présente la science à plusieurs aspects. Il y a d'une part l'aspect découverte, c'est l'homo sapiens, en quelque sorte, les chercheurs, et d'autre part l'aspect invention, qui est plutôt l'homo faber. C'est plutôt la technologie, les machines, les instruments, le côté ingénieur. Et le palais de la découverte est plutôt tourné du côté de la découverte. Alors que la Cité des sciences, par vocation, est plutôt du côté invention. C'est pour ça que la complémentarité des deux musées paraît bien assurée et que l'idée d'une fusion de ces deux musées risque de faire disparaître l'aspect découverte du palais.
Alors, justement, venons-en aux craintes et aux menaces liées à ce décret mettant fin à l'existence du Palais de la Découverte en tant que tel, puisque le Palais de la Découverte devrait fusionner avec le Palais des Sciences et de l'Industrie et que l'on craint quelque chose comme une noyade dans un vaste établissement public, industriel et commercial, où il n'y aurait ni direction, ni politique, ni budget autonome pour le Palais de la Découverte. Donc, si je comprends bien les choses, le prix Jean Perrin, qui est attribué au Palais de la Découverte, c'est aussi un cri d'alarme dans la crainte de sa disparition.
Oui, et c'est exact, parce qu'on conçoit bien que le Palais de la Découverte est beaucoup plus petit que la Cité des Sciences. Il est 5 fois plus petit en taille et en nombre de personnel. Et donc, le décret ministériel du 9 décembre 2009, qui a créé Universcience, c'est-à-dire l'établissement public commun, n'a pas attribué d'autonomie financière, ni d'autonomie fonctionnelle, ni même de budget propre au Palais de la Découverte. Il a juste mentionné que le palais qu'il y aurait une présence au Grand Palais.
Qu'il resterait sur les lieux même.
Oui, mais là aussi, il y a beaucoup de flou parce que pour l'instant, il y a de l'incertitude aussi sur l'évolution du Grand Palais, puisque, comme vous le savez, Jean-Paul Cluzel, le directeur du Grand Palais, est censé remettre au gouvernement, au mois de mars, un rapport expliquant le rapprochement art-science dans le Grand Palais et on ne sait pas du tout ce qui va sortir de sa conception du rapprochement des galeries artistiques et de la Grande Halle et du Palais de la Découverte. Donc, d'une certaine façon, la démarche rapprochée art-science nous paraît intéressante, puisque malgré tout, la démarche scientifique s'apparente à la démarche artistique, bien comme sûr. Chacun sait, et qu'on tient beaucoup à ce que la culture scientifique soit un volet de la culture tout court. Donc c'est quand même une chose sur laquelle on insiste beaucoup.
Bien sûr, et à l'Union rationaliste particulièrement.
Bon, et ben, très bien. et on pense aussi que la science mérite d'être présenté dans un lieu aussi beau que le Grand Palais. Néanmoins, il y a quand même une incertitude sur la localisation du palais dans l'établissement remanié et on ne voudrait pas voir ces mètres carrés diminuer.
Oui, alors ce que vous souhaiteriez et ce pourquoi beaucoup de gens se mobilisent aujourd'hui, c'est précisément pour conserver une autonomie de direction et une autonomie financière au Palais
Alors,
de la Découverte.
Il y a plusieurs choses sur lesquelles nous voudrions insister, nous, les sociétés scientifiques, et aussi la Société des Amis du Palais de la Découverte, qui est emmenée par Philippe Lazare. Nous voudrions d'abord que la présence au Grand Palais soit bien confirmée avec des surfaces qui soient au moins celles qui existent actuellement. Et puis nous voudrions que, bien qu'une concertation sur la programmation entre les deux parties d'Universcience soit tout à fait intéressante et souhaitable, nous voudrions que la partie Palais de la Découverte conserve une autonomie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il puisse continuer à travailler dans la méthode qui est la sienne, qui utilise beaucoup les médiateurs, par exemple, qui sont des jeunes ou des moins jeunes, souvent des étudiants en cours de thèse, qui viennent faire des démonstrations pour le public de petites expériences qui sont créées et qui sont sorties des laboratoires. Moi, j'en ai monté une ou deux autres, dans mon domaine de physique atomique et optique. Et c'est tout à fait un rapport particulier avec le public.
Mais donc, oui, des générations de jeunes gens se sont frottés à la science dans les premiers temps et des vocations, très nombreuses vocations sont nées au Palais de la Découverte.
Bien sûr, Roland Lehoucq, le président de notre jury Perrin, dit qu'il a fait de la science parce que son père l'emmenait toujours au Palais de la Découverte et moi-même j'y ai souvent conduit mes enfants. Et donc j'en ai moi-même en tant qu'enfant un souvenir merveilleux.
Oui, c'est un lieu de la diffusion et de la médiation.
Oui, et puis il faut dire qu'il y a beaucoup de public. Hein. Il y a 500 000 personnes qui viennent chaque année. Et à chaque fois que je passe devant, je vois une queue le samedi et le dimanche de gens qui attendent pour entrer dans le Palais de la Découverte.
Et ce sur quoi vous insistez et qui me paraît très intéressant, c'est que et le Palais de la Découverte et le Palais des Sciences et de l'Industrie ne répondent pas aux mêmes fonctions et aux mêmes attentes.
Mais pas tout à fait. Les expositions ne sont pas conçues exactement de la même façon. La médiation est plutôt présente au Palais de la Découverte et les explications en direct faites par des vraies personnes, souvent par des vrais chercheurs. Oui. Et c'est plutôt au Palais de la Découverte
la
que
qualité
ça a lieu.
Irremplaçable du rapport humain.
Voilà, alors, c'est mieux que l'ordinateur quand
absolument.
Même.
Absolument. Michel Leduc, j'ai coutume de poser au terme des émissions de l'Union rationaliste à mes invités rationalistes la question suivante. Pourquoi êtes-vous rationaliste et qu'est-ce que cela signifie pour vous ?
Eh bien, écoutez, cela signifie que je crois quand même qu'il y a des vérités scientifiques qui sont bien établies. Je ne pense pas que la science actuelle ait tout compris. Certainement, on n'a compris qu'une petite partie de ce qu'il y a à comprendre. Je ne suis pas philosophe, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je pense qu'il y a encore énormément à découvrir. Et ça, c'est bien pour la science et pour ceux qui commencent. Chaque fin de siècle, on dit que la physique, c'est fini. Quand on a trouvé l'électromagnétisme, c'est fini. Quand on a trouvé la radioactivité et la relativité, on dit que c'est fini. Puis on s'aperçoit, début du XXIe siècle, qu'il y a encore beaucoup de choses inconnues, l'énergie noire, la matière noire, les grandes structures de l'univers, etc., etc. Donc, je crois vraiment que malgré tout, il y a des vérités scientifiques bien établies et je m'irrite beaucoup de la remise en cause des prétentions de la science, soupçonnées d'arrogance, qu'on entend de plus en plus dans les médias et qu'on voit dans la presse.
En un mot, ce que vous dites, Michel Leduc, c'est que du point de vue de la rationalité, il y a encore beaucoup à découvrir et du point de vue de la rationalité, il y a encore beaucoup de choses à combattre du point de vue d'un irrationalisme
voilà.
Ambiant.
Alors, je trouve que cet irrationalisme augmente. Voilà. On voit beaucoup s'installer de paresse intellectuelle qui favorise des pseudo-sciences et on croit de moins en moins à la vérité scientifique. Je crois que ça s'appelle relativisme. Enfin, toutes les formes de pensée se valent et tout mérite débat. Et donc, j'en ai fait l'expérience une ou deux fois personnellement. Et je donne juste un exemple.
Oui,
en tant que société de physique, on nous a alertés, c'était en février 2007, à propos d'une émission qui était passée sur Arte, pourtant c'est la chaîne culturelle, hein, une émission scientifique, où des tas d'inepties avaient été développées, telles que ça s'appelait le gonflement de la Terre depuis les dinosaures, et puis on racontait qu'il y avait focalisation des neutrinos par la Lune et que ça entraînait le chauffage du centre de la Terre et des cataclysmes géophysiques, etc.
Enfin, des contre-vérités scientifiques.
Ah, mais c'était absolument un tissu, et le petit film était très joli, mais il était tellement absurde. Alors, la Société de physique a protesté auprès de Jérôme Clément, le patron de la chaîne de télévision, qui a répondu une lettre très polie, mais je vous lis quand même sa dernière phrase. À condition d'en présenter le contexte, en l'occurrence le fait que ces thèses ne sont pas partagées par la majorité des scientifiques, il ne me semble pas aberrant pour une chaîne publique d'évoquer des pistes scientifiques différentes. L'objectif est de nourrir le débat. Et sans divergence d'opinion, ce débat ne peut avoir lieu. Cette phrase m'a énormément choquée et je l'ai gardée en souvenir parce que je pense que Jérôme Clément ne devrait pas être fier d'écrire des choses comme ça à des sociétés savantes et de présenter des fausses sciences dans son émission. Voilà. Et je pense que ça se répand, cette idée que tout mérite débat et que c'est amusant de présenter des opinions différentes en présentant en parallèle une vérité scientifique, comme par exemple pour l'évolution du climat, et puis des théories alternatives plus ou moins bien étayées. Et je voudrais vous signaler que des collègues anglais m'ont fait savoir que le rédacteur en chef du journal Times, fort respecté en Angleterre, a donné consigne à ses rédacteurs scientifiques, la consigne suivante, « No conflict, no paper ». S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'article. Donc, on assiste vraiment à un assaut de
d'irrationnel. Oui. Précisément au nom de la nécessité d'une discussion ou d'un débat,
voilà,
c'est ce qui vous irrite.
Voilà, tout devient débat. Tout devient matière à débat.
Un relativisme qui précisément susciterait le débat et qui se fait au détriment
de des vérités qui sont quand même bien prouvées.
C'est ça, voilà. De la reconnaissance, d'une vérité scientifique établie.
Voilà pourquoi, si vous me demandez, je me sens tout de même plutôt rationaliste.
Alors, merci Michel Leduc. Dans le dernier numéro des Cahiers rationalistes, Alain Policard nous tire sa révérence gentiment. Sur le site de l'Union rationaliste, nous souhaiterions mettre sur pied cette pétition de défense du Palais de la Découverte. Philippe Lazard, président de la Société des Amis de la Découverte, nous fera donc parvenir sur le site de l'Union rationaliste sa pétition. Je remercie Brigitte Mazire et Pierrick Charles qui ont rendu possible cette émission.